poète qui s'appelait Pierre Reverdy, qui dit à sa manière, dans la langue, mais moi j'entends un peu autre chose, qui dit « Une image n'est pas forte parce qu'elle est brutale et fantastique, mais parce que l'association des idées est lointaine et juste. »
Vous dites collage, il dit association. Vous dites fragment, il dit moment. Avec cet air et cet art malicieux de la contradiction. À 88 ans, le cinéaste philosophe entend bien continuer à faire des films et à observer le monde tel qu'il va, même si, en apparence, il s'en est soustrait de ce monde en s'installant à Rolles, au bord du lac Léman, avec sa compagne, la réalisatrice Anne-Marie Miéville. Les trois quarts des gens ont le courage de vivre leur vie, disait-il à Cannes l'an passé lors d'une conférence de presse 2.0, mais ils n'ont pas le courage de l'imaginer. J'ai de la peine à vivre ma vie, mais j'ai le courage de l'imaginer. Dans ces films, pourrait-on ajouter, sans trahir sa pensée. Lors de cette remise d'une palme d'or spéciale l'an passé, l'actrice Cate Blanchett, la présidente du jury, a salué un artiste qui fait avancer le cinéma, qui a repoussé les limites, qui cherche sans arrêt à définir et à redéfinir le cinéma. Entamé en 99 avec Éloge de l'amour, notre musique, film socialisme puis adieu au langage, Jean-Luc Godard clôt aujourd'hui un cycle avec le livre d'images. Diffusé le 24 avril sur Arte et disponible dès mercredi en avant-première sur arte.tv, il sera ensuite présenté dans les musées et les théâtres, mais ne sortira pas en salle. Le livre d'images est un film essai, poétique et politique sur le langage, sur l'art, sur les guerres et les révolutions, la fatalité et les espérances. Un cheminement dans l'esprit sinueux de son concepteur, réalisé sans tournage et sans acteur, avec une succession d'images et de sons qui se chevauchent, déferlent et se brisent comme des vagues pour laisser place à un bruit sourd ou un silence, un film où le son est séparé de l'image, où l'image se passe de commentaires. Tout de suite, Jean-Luc Godard ouvre pour vous son grand livre d'images.
On va me chercher les livres, on va y jeter un coup d'œil.
Trois mois.
What's coming? It's me.
Are we gonna ride the train?
It's
look at how
goes
you
are.
Here
we
come. Here we come.
Tell me something nice.
Sure. What do you want to hear?
Lie to me. Tell me all these years you've waited. Tell me.
All these years I've waited.
Tell me you still love me like I love you.
Le livre. Etc. etc.
Je voulais savoir, Jean-Luc Godard, comment il s'est construit ce film ?
Ça peut se peindre, peut-être, mais ça ne peut pas se décrire. C'est venu comme ça, il y a des associations qui se font. En fait, je ne sais pas, il faudrait que je vous montre, hein, peut-être prendre une photo là-haut de l'étagère du scénario. C'est les étagères. Ce qui est en vert, c'est le scénario. Ce n'est pas une page d'écriture. Pour moi, c'est ça le scénario. Vous voyez qu'il y a des livres, donc.
Et le scénario, c'est écrit
de l'écriture.
Pendant le montage, en fait, ce scénario que mais, vous appelez. C'est-à-dire qu'il y a l'étagère verte avec des livres posés dessus.
Mais il y a du montage, déjà.
Ouais.
Il y a du montage. Et le scénario se fait au montage. Donc avant, pour le livre d'images, il y avait une étagère pareille, où il y avait un certain nombre d'étapes, mais comme un théorème, on aurait pu l'appeler théorème, alors que le film de Pasolini, théorème, est une idée qu'on essaye d'appliquer sur l'écran. Comment on dit, c'est une... Il y a le mot qui me manque. Et les mots qui me manquent maintenant beaucoup avec l'âge, en fait, ils sont pas loin, ils sont toujours là quand il faut. Et c'est normal qu'il manque, puisque je fais du cinéma. C'est normal qu'il me manque, que je m'en souviens plus qui a fait tel film, qui a fait tel livre, qui a fait telle peinture, qui a fait la guerre dans tel pays, et des trucs comme ça. Non, ça ne me sert à rien.
Et les images, elles manquent jamais. Dans livre d'images, il y a une image manquante pour vous, Jean-Luc Godard.
Mais il y en a 100 000. Mais il faut bien restreindre le truc. On n'a qu'un écran, on n'a pas toute la vie. Un moment, pour raconter toute une vie, il me faut une éternité. Pour raconter une seconde, il me faut un jour. Proust l'a bien montré.
Il me faut une journée pour faire l'histoire d'une seconde. Il me faut une année pour faire l'histoire d'une minute. Il me faut une vie pour faire l'histoire d'une heure. Il me faut une éternité pour faire l'histoire d'un jour.
Et alors, avec le cinéma aujourd'hui, il y a quelque chose qui me manque, c'est l'écran. L'écran qui est à la fois comme une porte ouverte et une porte fermée. Et que c'est plat. C'est plat comme le papier. Mais le fait que ça soit plat me gêne. J'ai essayé des placebos de genre la 3D, par exemple, de tourner en 3D et en mettant le son à côté.
En le spatialisant pour recréer une autre
Je dirais pas spatialisant. Pour créer une autre association de l'image et du son. C'est notre studio, le mixage. Vous pouvez le comparer avec d'autres studios de mixage où vous êtes allé. Et ici, vous voyez...
Mais là, ce n'est pas un studio de mixage, c'est votre salon.
Non, c'est aussi un studio de mixage. Mais qui est salon ? Il y a deux haut-parleurs de la même qualité qui sont de côté. Et il y en a deux qui sont derrière. Ça fait qu'on est en 7.1. Qu'on ne peut quasiment pas diffuser le film, sauf une fois à Cannes, où on a fait la projection encore, c'était pas parfait. Mais on peut pas. Donc, les trois quarts des gens sur Arte verront le film avec le son de la télévision. Quand je dis le son, c'est le langage, c'est pas les mots, c'est pas la langue que parlent les acteurs ou tout ça. C'est venu tout ça là, très petit à petit. Et alors petit à petit, s'est installé que tout le film serait fait avec des images de film, qui est très loin déjà de ce que j'utilisais avant autrefois, la citation, et qu'on m'a beaucoup reproché. Il s'est construit un film, et depuis deux ou trois films du reste, je commençais à diviser mes films en deux ou trois parties qui étaient des espèces d'associations, comme deux ONG qui s'associeraient pour aller aider tel problème dans tel pays.
Là, vous voulez aider qui, vous, avec ce film ?
C'est des questions que je ne me pose plus. Les journalistes ne sont pas des gens malheureux. Hélas pour eux, je crois.
Pas suffisamment.
C'est la fameuse phrase qu'on ressort souvent d'Elias Canetti, qui est « Nous ne sommes jamais suffisamment tristes pour que le monde soit meilleur. »
Et les cinéastes, ils le sont suffisamment tristes ? Vous l'êtes ?
Très peu. Moi, un peu, ça m'a beaucoup été reproché. Maintenant, moins avec l'âge, car on est content quand même d'être sur cette terre comme ça. Mais les cinéastes, non, ils sont tristes si les Américains, s'ils ne font pas l'entrée, les Français, si on ne parle pas d'eux, et comme ça. C'était très différent, la nouvelle vague, parce que les quelques 3-4 garçons qui étaient là découvraient qu'il y avait un continent dont on ne leur parlait pas, ni en classe, ni chez eux. Je me suis toujours tenu, tout en étant plus ou moins compagnon, j'étais plutôt un peu à l'écart, regardant, et comme ça. Et puis, après, essayant de faire ma salade, moi, ou avec un ou deux autres. Voilà.
Mais vous disiez, au moment de la Nouvelle Vague, il y avait tout un monde à découvrir. Cette curiosité, on a quand même le sentiment que vous ne l'avez jamais perdue. Vous avez toujours essayé aussi d'aller défricher, explorer les limites, les possibles de cet art, de cet outil que pouvait être le cinéma.
En le travaillant, comme quelqu'un qui commence par faire de la cuisine pour manger, puis petit à petit, voir qu'on peut le travailler, changer des choses, et comme ça, sans arriver jusqu'à là où on est arrivé. Là où on est arrivé, au bout de deux jours, moi, les grands chefs cuisiniers, c'est marrant, mais...
Et donc là, quelle recette vous avez expérimentée dans le livre d'images? Vous avez supprimé un ingrédient absolument essentiel, a priori, pour tout chef cuisinier, c'est le tournage. C'est un film, il faut quand même le dire, qui est...
Mais le tournage était déjà fait, puisque c'était des plans de films qui ont été faits, et que je prends dans beaucoup de jeunes fanatiques des... la vidéo, des choses comme ça. On fait aussi beaucoup de films où ils reprenaient des images et ils racontaient autre chose. Moi, je ne raconte pas autre chose. Je prends des images qui toutes racontent quelque chose de la même chose, si j'ose dire. Ça a un sens au sens de marcher. Soit dans la forêt, soit sur la route, ou comme ça, qui a une direction. De ce point de vue-là, c'est...
De ce point de vue-là, ça a du sens.
Ben forcément, on ne peut pas prendre n'importe quelle image n'importe quel film, ou de n'importe quel document. Le cinéma, ça... Mais c'était une idée comme ça, pour moi, toujours été fait pour penser.
Il y a les... Cinq doigts, les cinq sens, les cinq parties du monde. Oui, les cinq doigts de la fée. Mais tous ensemble, ils composent la main. Et la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains.
Il faut qu'on revienne juste, Jean-Luc Godard, à l'idée de départ, ou disons à la première, les premières images du film. Et ces images, ce sont vos mains qui sont en action sur la table de montage.
C'est pas mes mains, c'est les mains de Woody Allen. À la fin de King Lear, où il m'avait accordé, en échange de $5,000, une journée. Et à midi, il est parti et il a eu ses $5,000, et c'était très bien. Mais où il devait travailler un peu, essayer de rapprocher deux bouts de film avec du fil et une aiguille.
En ouverture de ce film, donc, vous rappelez que la main est la vraie condition de l'homme, qu'il faut penser avec ses mains. Vous
ça,
citez
c'est un texte...
le concitoyen Denis de Rougemont.
Denis de Rougemont, oui.
Penser avec les mains. C'est pas une invitation à ne plus réfléchir, cette phrase-là, ce livre-là, ces mots-là de lui. C'est une invitation à réfléchir en agissant.
Oui, je pense, parce que les mains vous font beaucoup de choses. Essayez de, si vous avez une main brisée ou cassée, regardez, faites une liste de toutes les choses que vous ne ferez pas et auxquelles vous penserez sans arrêt parce qu'elles ne sont plus là.
Ces mains que vous avez tellement filmées, pas toujours les vôtres d'ailleurs, celles de vos acteurs, celles des personnalités que vous avez pu croiser, ces mains que vous avez montrées dans
mais
vos films.
C'est très peu quelqu'un, je regardais l'autre jour un documentaire sur Camille Claudel, en fait elle les montrait beaucoup plus que moi. Moi je les montre juste en tant que signe, si vous voulez, parce que sinon ça serait un autre film.
Elles ont la mémoire longue, vos mains? Elles ont gardé des souvenirs aussi?
Des souvenirs de mains? Pas beaucoup, hélas, trop là. Ou pas assez là.
Ou là?
Oui. Mais les journalistes, vous voulez toujours, j'ai fait un film là-dessus, vous voulez toujours avoir le dernier mot. On dit quelque chose, pof, vous dites, ah bon, ça veut dire que... Moi, je dis, non, pas du tout.
Vous voulez plus que je parle ?
Ça serait l'idéal, mais que l'émission existe quand même.
Comment on va faire pour la faire exister ? Prenez le pouvoir.
Ben, il faut mêler radio et cinéma. Enfin, disons le vrai cinéma, la vraie radio.
Mais vous mettez déjà de la radio dans votre film. Puisque mais la radio, c'est le son. Et c'est la voix, surtout.
Oui, oui, mais la voix n'est pas la parole. La voix peut devenir la parole que quand il y a une action très, très forte et très tragique où il s'agit de dénoncer quelque chose, les Juifs pendant le régime de Vichy, ou seul un archevêque de Toulouse qui a osé faire les homélies, à ce moment-là, on peut dire qu'il était proche de la parole. Mais si vous écoutez le sermon le dimanche, comme ça, non, il en est loin, il lit des textes.
Vous en êtes où aujourd'hui, Jean-Luc Godard, de votre rapport à la mémoire, au passé ?
À la mémoire, je vais vous réciter une phrase de Bergson. Là, c'est parce que l'esprit emprunte à la matière les perceptions dont il fait sa nourriture et les lui rend sous forme de mouvements auxquels il imprime sa liberté. C'est une phrase que disait un petit garçon dans le film socialiste. Eh bien, c'est le dernier paragraphe de Matière et mémoire de Bergson. Donc la mémoire disparaît, mais il y en a tellement. Moi, je ne sais plus. Si je me compare à Rivette, qui lui savait quel était le nom du deuxième assistant opérateur du 300e film de Raoul Walsh, moi, pas du tout.
Mais c'est ça, avoir de la mémoire ?
Non. Non.
Le film, le livre d'images, est marqué par la répétition. Vous avez donné d'ailleurs comme titre de chapitre, Remakes,
oui.
À la première partie du film. Il y a une invitation à revisiter le passé, à peut-être aussi remettre du passé dans le présent. Est-ce que vous pensez, vous, Jean-Luc Godard, qu'on refait toujours les mêmes erreurs, que l'histoire se répète toujours ?
Non, pas forcément. Pas forcément. Mais elle se répète à un moment, elle peut se répéter à 12h01 et puis ne pas se répéter à 12h03. Non. Non. Au début, je me souviens d'un article que j'avais écrit et qui s'appelait « Pour un cinéma politique ». Ça avait un peu indigné Bazin parce que dans cet article, je disais « Allez en province et faites autre chose que des histoires parisiennes. Filmez la mort de Philippe Henriot, qui était un fasciste à la radio à l'époque de Vichy. » Et j'associais ça « Filmez la vie merveilleuse de Daniel Casanova, qui est une déportée du Parti communiste, femme de Laurent Casanova, et qui écrit un bouquin juste à la Libération qui s'appelait « Du soleil plein le cœur ». J'y ai repensé quand j'ai vu que le prochain film de M. Ruffin, il y a le mot « soleil » aussi.
« Je veux du soleil hein, » de François Ruffin.
Oui, « Je veux du soleil ».
Après « Merci patron ».
Pour moi, ce n'est pas du tout des films politiques.
C'est quoi ? Des gros reportages ?
À peine. C'est comme un film qu'avait fait Danny Cohn-Bendit et Romain Goupil qui s'appelle « La traversée ». Ils ont traversé toute la France. Ils n'ont pas vu un gilet jaune. Ils n'ont rien vu.
Mais alors, vous parlez de cinéma politique, en tout cas de tel que vous l'entendiez avant, quand vous l'aviez formulé, et tel que vous le comprenez aujourd'hui.
Avant, je disais cinéma politique, ouais. Je veux dire un cinéma qui parle de politique. Mmh. Voilà ce que je pensais qu'il fallait faire. Mais c'était inconsciemment une idée pour ça se combinait à d'autres choses pour aller ailleurs, là où j'ai atterri à 5-6 ans seulement.
Voilà, et aujourd'hui, vous avez le sentiment de faire un cinéma politique, pas un cinéma qui parle de politique.
Non, même plus, comme on disait avec Gorin, de faire politiquement du cinéma, qui était, selon les phrases qu'on inverse, et on dit, il ne faut pas faire ça, mais il faut... Non, non, c'est du cinéma. Mais la politique, qui est une autre phrase à propos de politique, c'est une phrase de Claude Lefort qui disait... Les démocraties modernes, en faisant de la politique un domaine de pensée séparé, les démocraties modernes prédisposent au totalitarisme. Et ben voilà, on est dans une phase de l'humanité relativement totalitaire.
Et les images peuvent contribuer
à cause de la langue qui n'est pas le langage.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Sur cette histoire de définition, en 52, à la question « qu'est-ce que le cinéma ?», vous répondiez d'abord l'expression des beaux sentiments. Quelques années plus tard, en 99, dans le troisième épisode de vos histoires du cinéma, vous dites « qu'est-ce que le cinéma ?» Rien. Que veut-il ? Tout. Que peut-il ?
Mais ça, ça vient de la phrase.
Quelque chose.
Ça vient. Au début, j'étais sous l'influence de Maurice Scherrer, plus tard Éric Rohmer, les beaux sentiments, et comme ça. Mais c'est vrai que Corneille, Racine, Molière étaient plus révolutionnaires, je pense. Et après, c'est une phrase de l'abbé Sieyès, au début des États généraux de 89. Qui parle du tiers-état. Qu'est-ce que le tiers-état ? Rien. Que veut-il ? Tout. Qu'est-il ? Quelque chose.
Donc aujourd'hui, à la question « qu'est-ce que le cinéma ?», vous reprendriez cette phrase ?
Oui.
Ça marche ?
Oui, quelque chose.
Je recherche une des phrases que vous avez utilisées dans le livre d'images sur l'art. Quand un siècle se dissout lentement dans le siècle
Quand
suivant,
un siècle se dissout lentement dans le siècle suivant, quelques individus transforment les moyens de survie anciens en moyens nouveaux. Ce sont ces derniers que nous appelons art. La seule chose qui survive à une époque, c'est la forme d'art qu'elle s'est créée. Aucune activité ne deviendra un art avant que son époque ne soit terminée. Ensuite,
Cet art disparaîtra.
Vous avez l'image qui va avec ça. C'est l'image de la petite fille qui filme une oie. C'est une phrase de Hollis Frampton. Je ne sais pas si c'est l'image qui commente le texte, ce que je pense souvent ou ce que je fais souvent, mais que les gens ne croient pas, ne sentent pas, parce que eux ne pensent qu'il n'y a que le texte qui peut commenter l'image.
Mais alors, pour vous, le cinéma est un art de l'époque ?
Oui, tout à fait.
Mais il est amené à disparaître avec cette époque ?
Ça, c'est... Voilà, c'est celle-là.
Ah. Alors, comment cette image vient éclairer le texte ? Puisque ce n'est pas le texte qui éclaire l'image.
On ne sait pas, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux, ou un peu les deux. Si vous me posez cette question, comment ? C'est parce que vous partez du texte, soit d'un côté, soit de l'autre. Et puis ensuite, vous continuez. Vous n'êtes plus dans l'association. En fait, tous les films que j'ai faits, ça a toujours été par besoin d'argent pour le film. Car tout est passé dans le film. Ici, par exemple, c'est une salle de montage. Donc, moi, j'habite dans mon lieu de mixage. C'est comme ça que je travaille. C'est moi, comme un atelier de peintre, si vous voulez. Et là, j'en suis arrivé à un moment où je n'ai plus vraiment de raison de chercher de l'argent pour un autre film, puisque je pense qu'il n'a, non seulement qu'il ne peut pas se faire, mais qu'il n'a pas à se faire, il a juste à se penser et à se dessiner comme Delacroix fait un dessin, et il ne pense pas qu'il doit en faire un tableau. Alors, le seul ennui, c'est que tant que la vie est là, il faut bien continuer à la nourrir, ce qui est très embêtant.
Le cadre, pour vous, c'est comme une toile ?
Oui, on peut dire ça comme ça, d'où ça vient, oui. C'est comme la feuille de papier, c'est comme la maison, ou c'est un cadre de vie, un cadre comme ça.
Dans le livre d'images, il y a encore beaucoup d'évocations de peintres.
Oui.
Qui vous sont chers ou pas, d'ailleurs, de peintres que
oui,
vous aimez.
Oui, je ne connais pas très bien, j'ai jamais vu.
On retrouve Derain, on retrouve Giacometti, on retrouve Caillebotte, d'autres.
J'ai jamais vu en vrai, j'ai vu que des reproductions.
Que des reproductions.
J'ai peut-être vu une ou deux en vrai, mais je ne m'en souviens pas.
Vous peignez, vous ?
Maintenant, j'aime bien, des fois... peindre un tableau qui est une copie, rajouter un peu de bleu et jaune, et comme ça, mais c'est tout. Mais c'est tout. Ou peut-être avec les tablettes, je me disais, tiens, on pourrait faire un film, mais c'est une idée, on pourrait faire un film ou sur une tablette ou avec tous les trucages numériques. Je peux recolorier à ma façon un film que j'ai fait. Le Chardin qui disait la peinture est comme une île dont on s'approche et qu'on n'atteindra jamais. Donc tout ça, c'est du rêve. Moi, je rêve beaucoup. De tout, de rien, spécial. Surtout je crois beaucoup plus avec l'âge. Avant, j'oubliais mes rêves. Le matin, j'étais tout de suite dans l'action. Faut faire ça. Il y a ça à faire maintenant. Plus du tout, parce que je me dis non. Je ferai plus de films comme ça, mais je continuerai à en faire.
Donc vous rêvez encore ?
Oui, complètement.
Est-ce que dans vos rêves, les images et le son sont désynchronisés comme dans vos films ?
Je ne sais pas.
Ça se pourrait ?
Je pourrais m'en souvenir, mais il faut s'astreindre, ou comme ça, j'ai fait 15 ans d'analyse, et puis au bout d'un moment, ça suffit, parce que, bon, ça m'a certainement servi et appris, mais ça me gênait que la personne soit un peu comme un journaliste d'investigation qui ne parle que de moi, et qui, enfin, où je n'arrivais pas, et qui ne parle pas de ce que je fais, dont j'avais aussi envie de parler, qui m'aurait fait probablement du bien d'entendre parler devant quelqu'un, plutôt que d'en parler tout seul avec moi-même.
Est-ce que il vous est arrivé de rêver, pas la nuit forcément, mais d'être quelqu'un d'autre ?
Alors, je suis 100 000 autres, oui, tout à fait. Le film, il faut réduire ces 100 000 à 300 ou 400, et puis qui défile, non.
Et vous avez toujours accepté, vous, Jean-Luc Godard, de parler aussi de vos films. Vous n'êtes pas de ceux qui disent « tout est là, dans mon œuvre, regardez et comprenez ce que vous voulez ».
Non, beaucoup trop, parce que je sentais que c'était ignoré et que... C'était aussi faire de moi peut-être un ignorant ou comme ça, puis il y avait certainement, avec les médias ou les débuts, je me sens toujours très journaliste, mais pas de la même façon. J'ai souvent essayé de faire des trucs à la télévision. Si je faisais une comparaison avec le football, c'est ailier droit ou ailier gauche, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment dans le jeu, qui fait des pointes, et puis en fait, qui n'est quasiment jamais engagé, qui reste sur le banc, mais qui essaie de penser à ce qu'il ferait s'il avait été ailier droit ou ailier gauche.
C'est ce que vous avez fait aussi en venant ici à Rol. Vous vous êtes mis en retrait du monde, et en même temps, vous ne parlez que du monde dans vos films.
Oui, tout à fait. Ici, on lit 3 journaux. régulièrement et presque complètement, c'est Libération, Charlie Hebdo et Le Canard. Moi, par origine bourgeoise, je lis un peu Le Monde le matin, enfin je le feuillette. Et je vois les différences, comment les gens écrivent. Libé, on sent encore qu'il y a des gens qui ont envie d'écrire et qui écrivent à leur façon. Et Le Canard, parce que quand même, c'est... Il y a une petite rubrique où il y a quand même des portraits de... Oui, c'est incroyable qu'ils arrivent à faire ça depuis le temps. Et sans publicité, c'est très français, ça. En Suisse, ça ne peut pas exister. En Allemagne non plus, bien qu'il y ait des journaux comiques ou comme ça. Mais il n'y a pas...
La satire.
La satire, mais...
Ça, c'est très français.
Oui.
Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, c'était du coup votre journal.
Oui.
On en qu'on assassinait un peu.
On en connaissait un, visuellement, et qui a joué dans un film, c'était
Bernard Maris.
Mais on les aimait tous, surtout. Et quand il y a eu cet attentat, moi, je suis tombé malade immédiatement.
Après Charlie.
Je m'excuse, je vous parle de moi, ce qui m'intéresse pas et que je trouve toujours déplacé. Pas si on en parle pour chercher quelque chose, qu'on en parle juste pour parler de soi. Encore que ça va, mais pas avec tout le monde. Mais je dis quand même, bon, je vais aller dans un hôpital, l'hôpital cantonal à Lausanne. Et là, j'ai demandé à la doctoresse, parce qu'elle me demandait, si vous allez encore plus mal que vous allez, enfin, c'était formulé comme ça, est-ce que vous êtes pour qu'on essaye de vous sauver ou pour qu'on vous laisse? J'ai dit, mais pour qu'on me laisse. Et elle m'a dit, non, pas question.
Dans JLG par JLG?
Oui.
Vous vous souvenez des mots que vous aviez? D'habitude, cela commence comme cela, il y a la mort qui arrive, et puis l'on se met à porter le deuil, je ne sais exactement pourquoi, mais j'ai fait l'inverse. Chambre noire, j'ai porté le deuil d'abord, mais la mort n'est pas venue, ni dans les rues de Paris, ni sur les rivages du lac de Genève.
Oui.
Elle veut pas de vous.
Eh ben bon, c'est bien vu. Vous dites, c'est bien vu, hein.
Vous avez peur parfois de ne pas...
Non, de trop souffrir. Mais l'hôpital, c'est la chose la plus magnifique qui soit. C'est dommage que ça soit là. Et l'état de la France aujourd'hui, par rapport à d'autres pays, est beaucoup plus passionnant que d'autres.
En quoi?
Mais à cause de tout ce qui se passe. Elle est unique. Elle marche mal, mais elle continue à discuter. C'est incroyable. La langue est complètement... Et tous les intellectuels, c'est navrant.
Ni oui, ni non, c'est une fille.
Il y a les cinq doigts. On accomplirait l'acte rédempteur. Sa main. Et un long moment après, parce que les histoires que l'on raconte vont moins vite que les actions ne s'accomplissent.
Il y a cinq citations, Jean-Luc Godard, il y a aussi cinq doigts, les cinq sens et les cinq parties du monde. Quelle est cette région centrale que vous évoquez dans Livre d'images? C'est le titre de la cinquième partie que vous avez empruntée à Michael Snow.
C'est l'amour. Et on le voit par le dialogue pris dans un ancien film d'Ovchenko qui s'appelait La Terre. Donc voilà, c'est très classique, c'est pas...
Et cette région centrale, elle nous amène aussi au Moyen-Orient?
Après, plus pratiquement, puisque pour nous, pour l'Europe, il y a aussi une région où Il y a un certain nombre d'actions qui se passent et qui est centrale dans les pensées des gouvernements, des États et peut-être des peuples. Voilà. Pourquoi les centrales pour l'Europe? Ben, ma foi, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'aller envahir l'Algérie, l'Irak, tout. Enfin, ça les regarde. Le cinéma, ça est un témoin plus honorable, je trouve, que la télévision. Aujourd'hui, où ça se confond un peu, c'est peut-être fini, mais a été un témoin plus honorable que la télévision de ce qu'il s'est passé sur la Terre, en bien ou en mal. Mais les gens le prennent pas comme ça, ils le prennent pour un spectacle. Du cinéma, ses faibles figures, comme le dit à propos de l'Europe la fille de la première femme de Napoléon, Joséphine de Beauharnais, qu'on entend dans le film du reste à un moment donné, pas la fille elle-même, mais ce qu'elle disait, elle dit quelque chose sur la démocratie comme ça, et elle finit par dire non, j'y crois pas parce que l'Europe n'a pas les vertus nécessaires. Qui est une phrase que j'ai souvent dit à Danny Cohn-Bendit, avec lequel, de temps en temps, on dialogue un peu gentiment, ou pas du tout, comme ça.
Et c'est Denis de Rougemont, pendant ses années new-yorkaises, qui disait « Vu de loin, l'Europe est une évidence ».
Ils sont tous trompés. Ils sont tous trompés, Jean Monnet, tous...
C'est quoi l'erreur ou le péché originel de l'Europe pour vous?
Mais l'Europe existe. Mais il n'y a pas besoin de la faire surexister par des textes, des accords et des choses. C'est comme si vous me disiez, mais l'amour, c'est quoi pour vous? On ne va pas en parler des heures. Il existe un acte, on pouvait s'entendre. On s'est entendu, mais il n'y a pas besoin de faire des traités. Mais tous ces mots, du reste, sont très, très symboliques. On peut faire un traité de métaphysique, mais on ne peut pas faire un traité politique, ça n'a pas de sens. Je trouve ça pourrait être un peu moins bête, simplement parce que les gens confondent langue et langage. Et que la première chose que les parents apprennent à un enfant, c'est à dire pourquoi. C'est la dernière chose qu'il devrait lui apprendre, qu'il le trouve tout seul, ce mot, s'il faut le trouver. Et que le cinéma, tel qu'il existe, bien ou mal comme ça, permet de vivre et de penser tout ça, sans faire du mal à d'autres.
Et même si rien ne devait être comme nous l'avions espéré, cela ne changerait rien à nos espérances.
Merci beaucoup à Jean-Luc Godard pour le temps qu'il nous a accordé, sa patience et sa confiance. Entretien à réécouter sur franceculture.fr accompagné d'un dossier complet. Merci aux équipes d'Arte et à son producteur Jean-Paul Battaglia qui ont permis cette rencontre, à Henri Leblanc qui a provoqué la chance, préparé et accompagné cet entretien. Il sera ce soir à 19h autour de la table des critiques de la dispute menée par Arnaud Laporte à partir de 19h avec notamment notre monsieur cinéma Antoine Guillot pour un retour sur l'œuvre de Jean-Luc Godard. Pensez avec les mains, dit Godard avec Denis de Rougemont. Un grand merci à Agnès Catou pour sa réalisation et à Cyprien de Millerville pour sa prise de son. Aux manettes ce midi, c'était Milena Elig avec Clément Daté à suivre Les Pieds sur Terre.